RFI, grand reportage.
Le magazine de la rédaction aujourd'hui témoigne, ou plutôt donne la parole à ceux qui le peuvent encore, des survivants de la folie des hommes. Ce lundi marque le 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination allemand d'Auschwitz-Birkenau. En 5 ans, entre 1940 et 1945, 1 100 000 personnes, hommes, femmes et enfants confondus, principalement des juifs de toute l'Europe, y ont été gazés, tués par balles, assassinés par la faim, le froid, les travaux forcés. Des 74 000 juifs déportés de France vers Auschwitz-Birkenau, 2 500 seulement sont revenus. Les 150 qui sont encore en vie ont aujourd'hui plus de 90 ans. À la rencontre des derniers survivants d'Auschwitz, c'est un grand reportage d'Anna Piekarek.
Les visages sont ridés, les cheveux clairsemés, les silhouettes un peu voûtées. Les années ont passé, mais eux, ils n'ont rien oublié. Esther Senot a 92 ans. Raphaël Esraï est de 3 ans son aîné. En 1943 et 1944, à quelques mois d'intervalle, tous les deux ont été déportés vers le camp d'Auschwitz-Birkenau, sur le territoire de la Pologne occupée, le plus grand des centres de mise à mort nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Raphaël Esraï, élève à l'école centrale de Lyon, a été arrêté parce que résistant. Il avait à peine 19 ans. Identifié aussi comme juif, il a été embarqué dans le convoi numéro 67, parti de Drancy le 3 février 1944, avec un millier d'autres personnes entassées dans des wagons à bestiaux. Le voyage a duré 3 jours et 3 nuits. Ce qu'il a découvert à l'arrivée dépassait l'entendement.
C'était le 6 février au matin, dans un froid important. On entendait des cris de « Schnell, Schnell, il y a des chiens ». Où on fait mettre les gens à droite et à gauche, c'est la sélection. La sélection, c'est quoi? C'est un officier SS, on ne sait pas que c'est un médecin, on l'a appris plus tard, qui, d'un geste de la main, lorsque vous passez devant lui, vous met à droite ou vous met à gauche. Nous apprenons très vite que toutes les femmes avec des enfants, et notamment des petits-enfants, sont toutes éliminées, sont gazées le jour même. Nous avons connu effectivement la vérité très rapidement.
Le convoi d'Esther Senot est arrivé à Auschwitz-Birkenau le 5 septembre 1943. 2 ans plus tôt, ses parents et son petit frère de 11 ans avaient été arrêtés à Paris pendant la rafle du Veldiv. La jeune fille avait réussi à s'échapper et à se cacher. Mais au bout d'un an d'errance, elle aussi a été interpellée et déportée. Elle avait 15 ans à l'époque.
Quand le train s'est arrêté, puis qu'on a vu arriver les Allemands, les capots et tout ça, avec les chiens pour faire descendre tous les gens qui étaient dans ces wagons à bestiaux depuis 3 jours, alors là, il y a un Allemand qui est venu avec un haut-parleur en disant que les personnes âgées, les femmes, les enfants, enfin, ceux qui étaient fatigués pouvaient monter dans les camions parce que le camp était à quelques kilomètres, ça leur faciliterait leur arrivée. Parce que à cette époque-là, en 1943, la ligne de chemin de fer n'arrivait pas jusqu'à l'intérieur du camp, elle arrivait ce qu'on appelait la Judenramp. Donc là, on leur disait ça, et quand ils arrivaient à l'intérieur du camp, on les dirigeait sur la fameuse douche en leur disant qu'ils allaient prendre une douche et qu'il y avait des porte-manteaux numérotés qui retiennent bien le numéro du porte-manteau pour retrouver leurs vêtements. Donc les gens pensaient vraiment qu'ils allaient prendre une douche. Ils pensaient bien que ça aurait été la panique complète si les gens savaient qu'ils allaient directement à la chambre à gaz. Eux, leur but, c'était de ne pas paniquer les gens.
Quand est-ce que vous avez appris la vérité ou compris la vérité?
Pas tout de suite. C'est-à-dire que quand nous, on est arrivé à l'intérieur du camp, il y avait cette fumée qu'on ne voyait rien, quoi. Pratiquement une fumée épaisse. Il y avait des odeurs qu'on n'arrivait pas à nauséabondes, on ne savait pas. Et puis quand on a commencé à avancer dans l'allée centrale, on voyait des cadavres le long de l'allée, on voyait des chiens qui sautaient sur des gens qui avaient l'air de véritables squelettes. Et puis quand on est arrivé au bout, là, il y avait une baraque, on nous a fait rentrer en nous disant de nous déshabiller, que nous allions prendre une douche. Et pour nous, du fait qu'on était sélectionnés pour travailler, on a pris la douche. Ensuite, on a été dirigé sur une autre baraque, on nous a rasé entièrement. On nous a tatoué un numéro sur le bras. Et on leur a demandé à ce moment-là, les personnes qui sont montées dans les camions, quand est-ce qu'on va les retrouver? Et c'est là qu'ils nous ont dit, vous savez, ici, vous ne faites pas d'illusions. Hein. On rentre par la porte, mais on n'en sort que par la cheminée. On a su une heure après.
1 100 000 personnes ont péri à Auschwitz. 70 000 Polonais, 20 000 Tziganes, 1 million de Juifs, dont les transports ont été acheminés de toute l'Europe, d'Amsterdam à Salonique, de Bordeaux à Prague. La grande majorité d'entre eux, 900 000, ont été gazés dès leur arrivée et réduits en cendres dans des fours crématoires de Birkenau. Ceux que les SS jugeaient aptes au travail forcé dans des usines et mines allemandes étaient provisoirement épargnés.
Nous sommes restés au camp parce que, effectivement, dans leur esprit, nous étions utiles en ce qui concerne leur effort de guerre. Mais ce que nous avons compris un peu plus tard, c'est qu'il s'agissait d'un génocide parfait. Ceux qui sont rentrés dans le camp, soit les hommes, soit les femmes, étaient tous destinés à mourir. Et je me permets de rappeler un fait historique. Il y a ce qu'on a appelé la conférence de Wannsee, qui a eu lieu le 20 janvier 1942, qui avait prévu que tous les Juifs d'Europe, 11 millions de personnes, devaient être donc exterminés. Nous étions, en parlant le langage nazi, des hommes sans valeur. Et par conséquent, compte tenu des rations, compte tenu de l'organisation du camp, en principe, nous devions tous mourir entre 3 mois et 6 mois. Pour les uns, c'était l'usure par le travail. Pour les autres, c'était les expériences médicales. C'était la faim, le froid, la maladie, vraiment, enfin tout. Puis-je raconter une journée, la nourriture d'une journée, ou une journée même au camp. Le lever était l'ordre de 4h, 4h30. On n'a rien pour se laver. On n'a pas de savon, on n'a pas de serviette, un filet d'eau, et il faut soi-disant être propre. Ensuite, on vous donne un bol de liquide, l'un qui s'appelle café, l'autre qui s'appelle thé, c'est ni du thé ni du café, mais ce sont des herbes, c'est tout. Et il y a ensuite ce qu'on appelle l'appel du matin. L'ISS vous compte et vous recompte. Ensuite, c'est la sortie du camp en musique et le travail en commando, qui est toujours un travail pénible dans 80% des commandos. À midi, les gens qui sont à l'usine ou à l'extérieur reçoivent une soupe. Un peu de graisse quand il y en a dedans. Et c'est 1 litre de soupe, point à la ligne. Et cette nourriture est prise debout. Parce qu'à Auschwitz-Birkenau, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de banc. On ne s'assoit jamais. Ensuite, vous recommencez votre travail. Lorsque vous êtes en commando extérieur, le travail, c'est jusqu'à la nuit. Et lorsqu'on était comme moi dans l'usine, c'était 12 jours par jour. Et au retour dans le camp, toujours en musique, de nouveau l'appel. Et les appels du soir étaient des appels terribles. Il y a eu des appels que je n'ai pas vécu, dont on nous parlait, et qui sont inscrites dans l'histoire, qui ont duré plus de 10 heures, où il faut être debout, à l'extérieur, dans le froid, sans bouger.
Et le cauchemar ne s'arrêtait jamais.
Le soir, quand on se couchait dans nos fameux galetas, on était à 6 par koya, ce qu'on appelait des koyas. Alors il y avait celle du bas qui était en béton, les deux autres étaient en bois, sur 3 niveaux. On dormait à 6 avec une seule couverture. On voyait la personne qui dormait à côté de soi en disant il y avait quand même des signes qui ne trompaient pas. On voyait les gens qui allaient mourir, hein, en disant elle ne passera pas la nuit. Quand on se réveillait, évidemment, il y en avait une qui était morte. Ceux qui étaient dans la cahier aussi, quand il y en avait une qui était morte, elle tombait par terre, comme ça faisait une place plus libre. C'était comme ça toutes les nuits, des cris, des hurlements, des pleurs. Le matin, on avait l'appel. Il fallait sortir les personnes qui étaient mortes pour qu'elles soient comptabilisées. Et ça durait des heures. Alors évidemment, quand arrivait le fin novembre, qui commençait à neiger, il y en a beaucoup qui ne se relevaient pas. Hein. Et puis à l'intérieur du camp, on avait de temps en temps, il y avait encore la sélection pour savoir si on était en état de travailler le lendemain. Alors il y avait toujours ces deux files, une à droite, une à gauche. Et on ne savait jamais dans quelle file on était, parce que par sadisme, les Allemands, un jour c'était la file de droite qui allait au crématoire, le lendemain c'était la file de gauche. Vous voyez l'angoisse permanente.
Esther Senot est restée dans l'enfer d'Auschwitz 1 an et 4 mois. Raphaël Esraï, 11 mois. Comment ont-ils pu tenir et survivre dans ces conditions épouvantables? L'extraordinaire résistance de la jeunesse et la chance ont certainement joué, ainsi que, souvent, une réelle solidarité entre les détenus, grâce à laquelle ils ont été affectés à des commandos travaillant à l'intérieur des bâtiments, à l'abri du froid polaire de l'hiver. C'était l'usine d'armement pour Raphaël, un atelier de tissage pour Esther, qui a fait preuve d'une étonnante faculté d'adaptation et de résilience.
J'avais eu une vie tellement difficile pendant un an, entre juillet 42 et juillet 43. J'ai quand même traîné un peu la galère dans Paris, hein, avec l'angoisse toujours de dire est-ce qu'on va se faire arrêter. On retirait l'étoile pour ne pas se faire remarquer. Je ne dormais pas toutes les nuits, je ne mangeais pas tous les jours. Bon, alors finalement, quand je suis arrivé moi à Auschwitz, disons que j'étais moins traumatisé par rapport aux autres qui venaient de se faire arrêter, qui vivaient normalement. Ces femmes qui avaient été sélectionnées, elles avaient quand même été séparées de leurs enfants, elles avaient été séparées de leur mari. Moi, je suis arrivé au camp, j'étais toute seule. Et puis, au bout de quelques mois, un blanc dans la tête en disant que je ne peux pas mourir à 15 ans, il faut que je revienne. Enfin, vous voyez, ça tournait à l'idée fixe. Et puis finalement, on s'installe dans l'horreur du quotidien. On ne voit plus rien, on ne s'occupe de rien, on ne fait plus attention.
Lorsque, le 27 janvier 1945, des avant-gardes de l'armée rouge sont arrivés par hasard devant le camp d'Auschwitz, Raphaël et Esther n'y étaient plus. Du jour plus tôt, environ 60 000 prisonniers encore en état de marcher et de travailler avaient été jetés sur les routes par moins 15, moins 20 degrés. Devant l'offensive des Alliés à l'ouest et des Soviétiques à l'est, les SS évacuaient les détenus vers d'autres camps à l'intérieur du Reich. La guerre continuait. Il fallait transférer la main-d'œuvre ailleurs. C'était la terrible marche de la mort.
Je garde le souvenir, je dirais l'un des plus terribles de ce que j'ai vécu à Auschwitz-Birkenau. Parce que la plupart de nos camarades, de mes camarades, avaient des galoches, c'est-à-dire des chaussures faites avec des semelles en bois et des tiges en toile, et marcher avec des galoches pendant des heures et des heures, c'est pas possible. Les tiges se sont séparées, ils ont été obligés de marcher pieds nus. Et puis ce qui m'a marqué à l'origine, c'était de voir des camarades tomber comme s'ils étaient en prière, tomber à genoux, parce qu'ils ne pouvaient plus marcher. Ils étaient tous ensuite abattus d'une balle dans la tête. Certains d'entre nous ont tenu pendant les 3 jours et 3 nuits. Je suis arrivé dans un camp qui s'appelait Grosse Rose. Et là, on y est resté très très peu de temps. Et le lendemain, on nous a tous mis dans des wagons, soit bestiaux, soit des wagons charbonniers. Et là, nous avons été entassés. On était 100, 120. Comme il n'y avait pas de place, on nous a bourré le maximum. Et ce que je vais dire est incroyable. Nous sommes restés 7 jours sans manger, sans boire. Rien n'a été donné. Jamais les portes ne se sont ouvertes. C'était plus un wagon, c'était un tombeau roulant. Il n'y avait pas de solidarité. Les gens se sont battus pour pouvoir s'étendre dans des conditions absolument inimaginables. Et il est resté pendant 7 jours, comme ça, jusqu'à Dachau.
De Dachau, Raphaël Esraï a été transféré à Waldlager, un petit camp en Allemagne, et affecté à une usine souterraine d'armement. Le 25 avril, ce camp aussi a été évacué. Raphaël a été finalement libéré par les soldats américains le 1er mai, une semaine avant la capitulation de l'État nazi. Esther Senot, qui, elle aussi, avait fait la marche de la mort, a été libérée du camp de concentration de Mauthausen en Autriche. Elle pesait 32 kilos. Revenue à Paris, elle a été dirigée, comme tous les déportés à leur retour des camps, vers l'hôtel Lutetia. L'accueil n'était pas celui qu'elle espérait.
Quand on est arrivé déjà à l'hôtel Lutetia, on était encore rasés, hein, parce que les cheveux n'avaient pas encore été repoussés. On avait des plaies un peu partout. Et on a été désinfectés au DDT. Alors j'aime mieux vous dire que quand vous avez des jets de DDT qui vous tombent sur des plaies, hein, on ne s'attendait pas à ça. Alors après, les quelques survivantes que nous sommes revenus, on a voulu essayer de parler tout de suite en venant et finalement personne ne nous a cru. On nous a traités de menteuses, de folles, de disant qu'on propageait n'importe quoi, que c'était pas possible. Pour eux, c'était inimaginable. Ils ont fini par nous dire, vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres? Alors on s'est tué. Puis disons que les gouvernements de l'époque n'avait pas intérêt à ce qu'on parle de la Shoah, personne n'en parlait. À l'époque, il y a De Gaulle qui avait pris le pouvoir. Bon, lui, il a voulu réconcilier les Français entre eux parce qu'il y a quand même eu pas mal de règlements de compte. Il a décidé que la France, elle avait été 80% résistante. Alors, moi, je considère qu'elle avait été surtout 80% d'indifférents. Hein. Vous savez, dans les rues de Paris, pendant l'occupation entre 42 et 43, si vous n'étiez pas communiste, ni résistant, ni juif, les gens ont continué à vivre. Hein. Personne ne parlait de la Shoah. Nous, on a été les oubliés de l'histoire.
Pour Raphaël Esraï, le retour en France a été plus facile. Contrairement à Esther, dont une grande partie de la famille avait été massacrée à Auschwitz, il a pu retrouver ses parents et reprendre ses études d'ingénieur. Cependant, lui aussi a préféré se taire.
On est rentré dans une France qui était libérée depuis plusieurs mois. Notre but n'était pas de parler. Notre but, c'était de se reconstruire, de retrouver une santé, d'essayer de vivre. La plupart sont allés à l'hôpital. Moi, je suis allé, mais je ne suis pas resté très longtemps. C'était une époque où il n'y avait pas de secours psychologique comme aujourd'hui. Et j'étais dans ma tête assez dévié, il faut tout de même dire, au point où j'ose le dire, je n'aimais plus personne. Chacun dans la vie a une référence, ou juge par référence et juge par comparaison. Et là, mes jugements se faisaient toujours par rapport au camp. Et en disant, tiens, celui-là, qu'est-ce qu'il aurait fait au camp? Avec la prétention qu'il a, etc. Je dirais, c'est quelque chose qui ne vous quitte pas. Encore 75 ans après la déportation, il nous en reste tous les jours quelque chose dans notre cœur et même dans notre vie. Je ne suis incapable de jeter un morceau de graisse ou de lard, si vous voulez, de jambon. Les cris, certains énervements. Le plus important, c'est ce qui a trait à la nourriture. Ensuite, au comportement des hommes, à l'humiliation. Le camp de chute et de Birkenau, c'était de l'humiliation permanente. Donc, il y a un certain type de comportement qui fait que ça nous ramène au camp.
Longtemps après la guerre, les rescapés juifs du camp d'Auschwitz-Birkenau ont gardé le silence sur leur immense douleur. Le souvenir de la déportation restait présent dans les familles, mais c'était une affaire privée. Si Raphaël Esraï a décidé de raconter publiquement la cruauté subie, les persécutions et la déshumanisation, c'était en réaction aux thèses négationnistes et antisémites apparues en France au tournant des années 80 pour nier l'existence des chambres à gaz et la volonté d'extermination des Juifs d'Europe par les nazis.
Ces mensonges, c'était insupportable. Et par conséquent, il était important, et nous avons jugé nécessaire, de faire connaître ce passé pour faire que la jeunesse d'aujourd'hui et de demain puisse comprendre ce qu'ont été les horreurs, ce que les hommes sont capables de faire à d'autres hommes. Toute cette souffrance, ça a été une souffrance hors norme, un assassinat programmé. Et ça, non. Ça, c'est absolument impossible, c'est inadmissible. Et je crois que aujourd'hui, moi, qui suis un Européen convaincu, si l'Europe s'est construite sur des valeurs qui sont celles essentielles de l'humanité, c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu Auschwitz.
Depuis qu'il a pris sa retraite il y a 30 ans, Raphaël Esraï a fait du devoir de perpétuer la mémoire de la Shoah sa principale mission. L'Union des déportés d'Auschwitz, dont il est président, organise des vidéoconférences pour les écoles et des voyages de formation à Auschwitz pour les enseignants. Elle a recueilli et publié sous forme de DVD des témoignages de nombreux survivants. Raphaël Esraï est aussi co-auteur avec sa femme Liliane, rencontrée à Drancy et déportée comme lui à Auschwitz, d'un livre de souvenirs, L'espoir d'un baiser. Esther Senot, elle, sillonne inlassablement la France pour transmettre la vérité sur la Shoah aux lycéens. Tous les deux, ils sont prêts à témoigner jusqu'à leur dernier souffle pour que le plus grand génocide du XXe siècle en Europe et son symbole, le camp d'Auschwitz, ne soit jamais oublié.
À la rencontre des derniers survivants d'Auschwitz, un grand reportage d'Anna Piekarek. Réalisation Eva Piedel.